Alphonse de Lamartine, Jocelyn, prologue. J'étais le seul ami qu'il eut sur cette terre, hors son pauvre troupeau. Je vins au presbytère, comme j'avais coutume à la Saint-Jean d'été, à pied par le sentier du chamois fréquenté, mon fusil sous le bras et mes deux chiens en laisse, fatigué de gravir ces monts croissants sans cesse, mais songeant au plaisir que j'aurais vers le soir à frapper à sa porte, à monter, à m'asseoir au coin de son foyer tout flamboyant d'érable, à voir la blanche nappe étendue et la table couverte par ses mains de légumes et de fruits, nous rassembler, causant bien avant dans la nuit. Il me semblait déjà dans mon oreille entendre de sa touchante voix l'accent tremblant et tendre, et sentir, à défaut de mots cherchés en vain, tout son cœur me parler d'un serrement de main, car lorsque l'amitié n'a plus d'autre lampage, la main aide le cœur et lui rend témoignage. Quand je fus au sommet, où d'où le libre horizon laissait apercevoir le toit de sa maison, je posai mon fusil sur une pierre grise, j'essuyai mon front que vint sécher la brise. Puis, regardant, je fus surpris de ne pas voir, d'arbre en arbre, au verger errer son habit noir. Car c'était le recinte où, libre et solitaire, au rayon du couchant, il lisait son bréviaire. Et plus surpris encore de ne pas voir monter, et du toit où si souvent je la voyais flotter, de son foyer du soir l'ordinaire fumée. Mais, voyant au soleil sa fenêtre fermée, une tristesse vague, une ombre de malheur, comme un frisson sur l'eau courut sur tout mon cœur. Et sans donner de cause à ma terreur subite, je repris mon chemin et je marchais plus vite. Mon œil cherchait quelqu'un qu'il pût interroger. Mais, dans les champs déserts, ni troupeau, ni berger. Le mulet broutait seul l'herbe rare et poudreuse. Sur le bord de la route et dans le sol qu'il creuse, le soc penché dormait à moitié d'un sillon. On entendait au loin que le cri du grillon, au lieu du bruit vivant des voix entremêlées qui montent tous les soirs du fond de ces vallées. J'arrive et frappe en vain le gardien du foyer. Son chien même à mes coups ne vient pas aboyer. Je presse le loquet d'un doigt lourd et rapide, et j'entre dans la cour aussi muette et vide. Vide, hélas, mon Dieu, non! Au pied de l'escalier qui conduisait de l'air au rustique palier, comme un pauvre accroupi sur le seuil d'une église, une figure noire était dans l'ombre assise, immobile, le front sur ses genoux couchés, et dans son tablier le visage caché. Elle ne proférait ni plainte ni murmure. Seulement du drap noir qui couvrait sa figure, un mouvement léger, convulsif, continu, trahissait le sanglot dans son sein retenu. Je devinais la mort à ce muet emblème. La servante pleurait le vieux maître qu'elle aime. « Marthe, dis-je, est-il vrai ?» se levant à ma voix et s'essuyant les yeux du revers de ses doigts. « Trop vrai, monsieur, montez, on peut le voir encore. On ne doit l'enterrer que demain à l'aurore. Sa pauvre âme, du moins, s'en ira plus en paix si vous l'accompagnez de vos derniers souhaits. Il a parlé de vous jusqu'à sa dernière heure. « Marthe, me disait-il, si Dieu veut que je meure, dis-lui que son ami lui laisse tout son bien pour avoir soin de toi, des oiseaux et du chien. » Son bien, n'en point gardé de toute sa gloire, il ne remplirait pas le rayon d'une armoire. Le peu qui lui restait à passer sou par sou, en linge, en aliment, ici, là, Dieu sait tout. Tout le temps qu'a duré la grande maladie, il aura tout donné, monsieur, jusqu'à sa vie, car c'est en confessant, jour et nuit, tel et tel, qu'il a gagné la mort. Oui, lui dis-je, et le ciel, et je montais, et je montais. La chambre était déserte et sombre, deux cierges seulement en éclaircissaient l'ombre, et mêlaient sur son front leurs funèbres reflets, aux rayons d'or du soir qui perçaient les volets, comme luttent entre eux dans la sainte agonie l'immortelle espérance et la nuit de la vie. Son visage était calme et doux à regarder. Ses traits pacifiés semblaient encore garder la douce impression d'extase commencée. Il avait vu le ciel déjà dans ses pensées, et le bonheur de l'âme, en prenant son essor, dans son divin sourire était visible encore. Un drap blanc, recouvert de sa soutane noire, parait son lit de mort. Un crucifix d'ivoire reposait dans ses mains, sur son sein endormi, comme un ami qui dort sur le cœur d'un ami. Et couché sur les pieds du maître qu'il regarde, son chien blanc, inquiet d'une si longue garde, grondait au moindre bruit, et là de le veiller, écoutait si son souffle allait se réveiller. Près du chevet du lit, selon le sacré rite, un rameau de buis sec en tremplait dans l'eau bénite. Ma main, avec respect, le secoua trois fois, en traçant sur le corps le signe de la croix. Puis je baisai les pieds et les mains. Le visage de l'immortalité portait déjà l'image, et déjà sur ce front où son signe était lu, mon œil respectueux ne voyait qu'un élu. Puis, avec l'assistant en disant les cinq antiques, je m'assis pour pleurer près des chères reliques, et priant et chantant et pleurant tour à tour, je consumai la nuit et vis poindre le jour. Près du seuil de l'église, au coin du cimetière, dans la terre des morts nous couchâmes la bière. Chacun des villageois jeta sur le cercueil un peu de terre sainte en signe de son deuil. Tous pleuraient en passant et regardaient la tombe s'affaisser lentement sous la cendre qui tombe. Chaque fois qu'en tombant la terre retentit, de la foule muette un sourd sanglot sortit. Quand ce fut à mon tour, « Ô saint ami, lui dis-je, dors. Ce n'est pas mon cœur, c'est mon œil qui s'afflige. En vain, je vais fermer la couche où te voilà. Je sais qu'en ce moment, mon ami n'est plus là. Il est où ses vertus ont allumé leur flamme. Il est où ses soupirs ont devancé son âme. Je dis, et tout le soir, attristant ses déserts, sa cloche en gémissant le pleura dans les airs. Et mêlant à ses glas des aboiements funèbres, son chien, qui l'appelait, hurla dans les ténèbres. Et moi, seul avec Marthe en ce même séjour, j'allais, je revenais du jardin à la cour, cherchant et retrouvant en chaque endroit sa trace, le voyant, lui parlant, et lui laissant sa place, feuilletant tout ouvert quelques livres pieux et disant un passage et m'essuyant les yeux. N'écrivait-il jamais? Quelquefois, le dimanche, me dit Marthe, il veillait sur une page blanche, et quand elle était noire, au fond d'un vieux panier, il la jetait. Et moi, dans un coin du grenier, je balayais la feuille au retour de l'aurore. Ce qu'ont laissé les rats, il peut bien l'être encore. J'y montais. J'y trouvais ces pages où sa main avait ainsi couru sans ordre et sans dessein, semblables à ces mots qu'un rêveur solitaire du bout de son bâton écrit avec mystère. Caractère battu par la pluie et les vents, et dont l'œil se fatigue à renouer le sens. Bien des dates manquaient à ce journal sans suite, soit qu'il eût déchiré la page à peine écrite, ou soit que Marthe en eût allumé ses flambeaux, et les vents sur son toit dispersaient les lambeaux. Déplorant à mon cœur maintes feuilles ravies, mon œil de ses débris recomposait sa vie, Comme l'œil éclairait les rayons de la nuit, et s'égarant au loin sur l'horizon qui fuit, voit les anneaux glissants d'un fleuve à l'eau bruyante, dérouler flot à flot leur nappe étincelante, se perdre par moments sous quelque tendre obscur, dans la plaine plus bas reparaître plus pure et briser de nouveau dans les prés qui l'arrosent. Mais, suivant du regard le sillon qu'il suppose, et sous les noirs coteaux devinant ses détours, de mille anneaux rompus recompose un seul cours. C'est ainsi qu'à travers de confuses images, de ce journal brisé, j'ai recousu les pages. Si du nombre souvent le texte est obscurci, complétez en lisant ces pages. Les voici.